Vous écoutez On lit pour vous.
La guerre du futur fait rage maintenant. Un dossier d'Alexandre Sirois, publié dans la presse du 22 mars 2026. En sous-titre, l'intelligence artificielle joue désormais un rôle crucial sur le champ de bataille. Un constat qui pose des questions urgentes sur la façon de s'assurer que le contrôle des opérations militaires demeure pleinement entre les mains des humains. Premier texte de la série, l'intelligence artificielle change la nature de la guerre. Et si un jour, un pays s'en remettait à une intelligence artificielle avancée pour gagner une guerre, et s'il lui confiait à la fois la conception de la stratégie et le contrôle du matériel militaire? Le scénario est évoqué en entrevue par le professeur David Scott Gruger. Il le fait suivre de deux autres interrogations encore plus troublantes. Citation. Est-ce que ça compte comme gagner la guerre si vous tuez tout le monde sauf le président? Est-ce que ça compte comme gagner la guerre si vous faites quelque chose qui change complètement le monde d'une manière qui le rend presque méconnaissable? Car les objectifs d'une super-intelligence artificielle qui contrôlerait éventuellement l'armée d'un pays ne s'enligneraient peut-être pas avec ceux des dirigeants de ce pays, estime-t-il. La tendance actuelle comporte des pressions compétitives qui continuent de nous pousser sur la voie de systèmes qui peuvent prendre des décisions et passer à l'action directement sur la base de ces décisions. Fin de citation. Autre citation, ils sont très intelligents. Ils comprennent assez bien le monde, mais n'ont pas nécessairement les intérêts de l'humanité, de leurs créateurs, de leurs utilisateurs ou de ceux qui sont censés les contrôler à cœur. Fin de citation. David Scott Gruger est un des chercheurs qui estime que l'humanité est en train de jouer à la roulette avec sa propre survie. Ce professeur adjoint au département d'informatique de l'Université de Montréal explique avoir récemment pris un congé sans solde pour fonder en Californie une organisation à but non lucratif baptisée Évitable. Son objectif? Mettre en lumière, citation, les risques de l'intelligence artificielle à l'échelle de la société, fin de citation, et lutter contre le développement de la super-intelligence. Dans ce contexte, l'usage militaire de l'intelligence artificielle est une des choses qui l'inquiète énormément. Citation. Beaucoup de gens se demandent toujours comment l'intelligence artificielle, même advenant le fait qu'elle devienne incontrôlable, pourrait tuer tout le monde. Je pense qu'il est très évident que cela pourrait arriver si elle contrôle l'armée, lance-t-il, fin de citation. On n'en est pas là, rassurez-vous. Et tous les experts ne sont pas aussi alarmistes que David Scott Gruger. À quel point l'intelligence artificielle est-elle déjà intégrée dans le domaine militaire? Et vers où cela peut-il nous mener? J'ai fait le point avec une demi-douzaine d'experts de la question au cours des dernières semaines. Citation, sans l'intelligence artificielle, même si vous voulez lancer un tapis de bombe, carpet bombing, vous ne pouvez pas le faire sans enfreindre le droit international. Or, ce que l'IA vous permet, c'est de produire le même effet, car à chacun des points de ce tapis de bombe, vous avez une justification qui vous permet d'expliquer pourquoi vous pouvez le bombarder. Fin de citation. Sébastien Ben Daniel est un informaticien israélien qui suit de près l'intégration de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille et qui ne s'est jamais gêné pour critiquer les méthodes des forces armées israéliennes. Il a aussi collaboré au cours des dernières années à Plus 972, un magazine d'information indépendant numérique israélien qui a révélé l'existence de certains outils d'IA développés et utilisés par l'armée de l'État hébreu lors de l'offensive à Gaza, lancée à la suite des attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023. L'un de ces outils controversés se nomme la Vendor. Il n'a rien, mais alors absolument rien à voir avec l'inoffensive plante à fleurs dont on s'est inspiré pour le baptiser. Il y a 2 ans, il a été décrit par le Plus 972 comme, guillemets, la machine d'intelligence artificielle qui orchestre la frénésie de bombardement d'Israël à Gaza. Fin de citation. Si vous voulez des preuves que la nature de la guerre est en train de changer en raison de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle, ne cherchez pas plus loin. Selon des sources au sein des services de renseignement de l'armée israélienne, citées par le magazine Plus 972 et par le quotidien britannique The Guardian il y a 2 ans, la Vendor a été utilisée pour choisir les cibles à abattre. Et pas qu'un peu. Durant les premières semaines de la guerre à Gaza, l'armée israélienne, citation, s'est presque entièrement appuyée sur la Vendor, qui a désigné près de 37 000 Palestiniens comme des militants présumés, ainsi que leur domicile pour d'éventuelles frappes aériennes, a rapporté un journaliste de Plus 72. Il a aussi mis au jour une autre donnée troublante. Une source lui a dit qu'à l'époque, les humains impliqués, citation, ne consacraient personnellement qu'environ 20 secondes à chaque cible avant d'autoriser un bombardement. Fin de citation. Les chiffres du nombre de frappes effectuées à Gaza grâce à l'intelligence artificielle sont saisissants, estime Sébastien Ben Daniel. Citation, vous pouvez avoir, dès le premier jour, 1000 cibles, alors qu'avant cette guerre, cela vous aurait pris, genre, 20 ans. C'est le premier changement évident de l'IA utilisé dans la guerre. L'échelle et la vitesse à laquelle vous pouvez faire ça. Fin de citation. Le deuxième changement notable, selon cet informaticien, c'est que la nature des cibles a changé. Citation, avant l'intelligence artificielle, parce que c'était si coûteux d'enquêter sur les cibles, vous ne faisiez ça que pour des gens très importants, comme le chef du Hamas dans la base de Gaza, Yahya Sinwar, ou le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Dieff ou des gens comme ça, signale-t-il, fin de citation. L'un des résultats de ces changements, c'est qu'un plus grand nombre de frappes se traduit, en tenant compte des quasi inévitables dommages collatéraux lors des bombardements, par un plus grand nombre de victimes civiles. Il est utile de rappeler ici que le nombre de victimes de la guerre à Gaza au plus fort du conflit d'octobre 2023 jusqu'au cessez-le-feu d'octobre 2025, s'est établi à plus de 70 000 selon le ministère de la Santé de Gaza. Et la majorité de ces victimes, selon diverses estimations, dont une étude publiée le mois dernier par The Lancet Global Health, étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Fin de ce premier texte du dossier « La guerre du futur fait rage maintenant », titré « L'IA change la nature de la guerre », texte signé Alexandre Sirois, publié dans la presse du 22 mars 2026.
À Tchernobyl, les chiens sont mutants, un texte paru le 20 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Plus de 35 ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les animaux sauvages abondent dans la région. Mais ça ne veut pas dire que les radiations sont inoffensives. Le 26 avril 1986, tu n'étais pas encore au monde. Mais cette date marque la survenue du plus grave accident nucléaire de toute l'histoire. Ce jour-là, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a explosé lors de tests techniques. Cet accident a engendré des radiations 400 fois plus élevées que celles provoquées par la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'explosion, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées des environs de la centrale et n'ont jamais pu retourner à la maison. La zone d'exclusion de Tchernobyl, soit le territoire contaminé par la radioactivité autour de la centrale nucléaire, couvre une superficie d'environ 2600 km², ce qui correspond environ à 5 fois l'île de Montréal. Et jusqu'à ce jour, cette zone est interdite aux humains. Étant donné les conséquences possiblement mortelles d'une exposition à de telles radiations, on s'attendait à ce que la zone d'exclusion devienne un désert sans vie. Mais étonnamment, plus de 35 ans après l'explosion, les animaux sauvages abondent. Grâce à des caméras placées par des scientifiques, on sait maintenant que se côtoient des ours, bisons, loups, lynx, chevaux et oiseaux. En fait, il y a davantage d'animaux qu'avant l'accident, et même davantage que dans les régions non contaminées des alentours. Attention, cela ne veut pas dire que les radiations ont des effets positifs sur les animaux, mais que les activités humaines, comme l'exploitation forestière, la chasse et l'élevage, ont des conséquences encore pires. Et que la nature est très résiliente, malgré son exposition aux radiations. La zone d'exclusion est d'ailleurs devenue une sorte d'énorme laboratoire naturel permettant l'étude de l'évolution des animaux sauvages dans des environnements extrêmes. Une récente étude démontre, par exemple, que les chiens errants de la région sont génétiquement différents des autres chiens dans le monde en raison de cette exposition. Des mutants, en quelque sorte. Des scientifiques ont réalisé des analyses génétiques entre 2017 et 2019 sur 300 chiens qui vivent directement autour de la centrale et entre 15 à 45 kilomètres du site de l'exposition. Et ils ont même été en mesure de distinguer différentes populations de chiens grâce à leurs gènes en fonction de leur distance de la centrale. Ces différences génétiques ont-elles un impact sur leur santé, leur comportement ou leur apparence? Encore trop tôt pour le dire. Mais les chercheuses et chercheurs soupçonnent que ce sont leurs mutations génétiques qui ont permis à ces chiens de survivre aux radiations, un genre de super-pouvoir. En somme, la catastrophe de Tchernobyl démontre que l'élimination des pressions humaines à long terme permet à la nature de reprendre ses droits, mais pas à n'importe quel prix. Celui d'une exposition à des niveaux très élevés de radioactivité, qui n'est certainement pas inoffensive. C'était « À Tchernobyl, les chiens sont mutants », un texte paru le 20 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Thank you.
Service de garde en français, le parcours du combattant des familles acadiennes et immigrantes. Un texte de Rachid Abar, paru le 28 mai 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Entre listes d'attente interminables, pénurie aiguë de personnel bilingue et distance décourageante, trouver une place en garderie francophone en Nouvelle-Écosse relève de la mission impossible. Une récente étude de Statistique Canada vient confirmer par les chiffres le cri d'alarme que les parents et les organismes communautaires lancent depuis des années. Sur le terrain, ce déficit structurel ne freine pas seulement l'économie, il menace directement la transmission de la langue en milieu minoritaire. Dans plusieurs communautés acadiennes de la province, l'histoire se répète en boucle. Les exemples abondent. Une mère se voit contrainte de refuser une offre d'emploi, faute de garde, tandis qu'un père multiplie les inscriptions sur les listes d'attente de 3 centres différents, sans obtenir la moindre réponse pendant des mois. Face à cette impasse, de nombreuses familles se résignent, la mort dans l'âme, à inscrire leurs enfants dans une garderie anglophone. Ces situations ne sont plus des cas isolés, mais bien les symptômes d'une crise structurelle que Statistique Canada vient désormais chiffrer. Dès qu'il s'agit d'un service de garde en français en milieu minoritaire, la disponibilité s'effondre, entraînant des conséquences majeures sur les plans professionnels, financiers et identitaires. Face au mur de l'emploi. Pour les familles nouvellement arrivées, ce manque de structure s'ajoute à une longue liste de défis d'établissement, recherche de logement, inscription aux écoles et navigation dans un système de santé souvent complexe. L'emploi est la clé de voûte d'une intégration réussie, mais sans filet de sécurité pour la garde des enfants, le processus déraille rapidement. Ajar Ajog, gestionnaire d'immigration francophone Nouvelle-Écosse, IFNE, observe quotidiennement ce frein à l'intégration professionnelle. L'obstacle majeur, en plus du manque de place, est l'impact direct sur l'emploi, explique-t-elle. Il y a des couples obligés de faire un choix difficile. L'un des conjoints doit céder une opportunité professionnelle ou faire une pause dans sa carrière, juste pour rester à la maison et garder les enfants. Ce sacrifice forcé ralentit l'autonomie financière des nouveaux arrivants et prive l'économie provinciale de talents indispensables, alors même que la province affiche des besoins criants de main-d'œuvre. De plus, la situation linguistique de ces foyers est souvent plurilingue, ce qui ajoute une couche de complexité à la dynamique familiale. Bien que les professionnels de la parole se veulent rassurants, quand on parle avec des orthophonistes, l'enfant est tout à fait capable de faire la différence entre les langues dans son cerveau, nuance la gestionnaire de l'IFNE. L'absence de repères francophones dès le plus jeune âge crée un stress pour la cellule familiale qui doit porter seule la responsabilité de la francisation. Le paradoxe des frontières, le contraste acadien. Cette crise de la petite enfance met également en lumière une profonde asymétrie régionale au sein des provinces de l'Atlantique. L'expérience de la parentalité francophone varie drastiquement selon le côté de la frontière provinciale où l'on se trouve. Au Nouveau-Brunswick, la force démographique et institutionnelle de la communauté acadienne offre un tout autre paysage. Dans certaines municipalités, le réseau de la petite enfance est presque exclusivement francophone, permettant une continuité naturelle de la langue de la maison vers la garderie, puis vers l'école. En Nouvelle-Écosse, le décor est tout autre. Les institutions francophones y opèrent dans un environnement ultra-minoritaire où chaque structure doit être défendue de haute lutte. Pour une famille immigrante ou acadienne, s'établir en Nouvelle-Écosse signifie trop souvent devoir composer avec ses déserts de services de garde en français. Ce manque de proximité géographique décourage les parents les plus volontaires, qui capitulent devant des temps de trajet déraisonnables pour atteindre le seul centre francophone de leur région. Renoncement linguistique permanent. Le recours au réseau anglophone s'impose alors comme l'unique planche de salut, un choix par défaut qui comporte un risque invisible, mais bien réel, celui du transfert linguistique définitif. Les données de Statistique Canada sont à cet égard sans équivoque. seuls 41 % des centres de garde francophones hors Québec disposent d'au moins une place vacante, forçant la majorité des parents à se tourner vers la majorité anglophone. L'impact sur l'avenir est mesurable. Un enfant qui commence son parcours préscolaire en français a 93 % de chances de poursuivre sa scolarité au sein du Conseil scolaire acadien provincial, CSAP. À l'inverse, pour les enfants issus de familles francophones inscrits dans des garderies anglophones, ce taux de rétention chute dramatiquement à 30 %. Sur le terrain, Ajar Ajouji confirme le mécanisme psychologique et social de cette rupture. La grande crainte, si le gouvernement ne trouve pas de solution, c'est une forme de frustration chez les parents. Certains se découragent et se disent « Puisque je n'ai pas trouvé de place en garderie francophone et que mon enfant a pris ses habitudes et s'est fait des amis dans le système anglophone, autant ne pas changer ses repères. » Le risque est alors majeur de voir ces familles continuer définitivement dans le système anglophone pour le primaire et le secondaire, privant le CSAP de ses effectifs futurs et fragilisant la vitalité de la langue là où elle est déjà minoritaire. Vous écoutez « Service de garde en français », le parcours du combattant des familles acadiennes et immigrantes, un texte de Rachid Abar, paru le 28 mai 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Un sous-financement historique. Pourquoi le réseau francophone accuse-t-il un tel retard? La réponse se trouve en partie dans les structures de financement historique. Les organismes de gestion, à l'instar du Centre d'appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, CAPENE, mènent un combat de longue date pour obtenir l'équité des subventions. L'exclusion passée des réseaux francophones de certains grands programmes de financement globaux, comme le Programme d'action communautaire pour les enfants, PACE, a creusé un fossé structurel difficile à combler face aux grands réseaux anglophones établis. À ce sous-financement chronique s'ajoute le principal point de blocage actuel, la pénurie de main-d'œuvre. Les centres francophones ne manquent pas de projets d'expansion, ils manquent cruellement de bras. Le recrutement et la rétention d'éducateurs qualifiés capables de travailler en français constituent un casse-tête quotidien. À l'échelle nationale hors Québec, à peine 6 % du personnel de la petite enfance utilise régulièrement le français au quotidien. En Nouvelle-Écosse, ce bassin est si précaire que, même lorsque des enveloppes budgétaires ou des locaux sont disponibles, des classes restent fermées, faute d'éducateurs pour les animer. Pour tenter de cartographier et de résoudre cette crise, les CSAP s'apprêtent d'ailleurs à lancer une nouvelle étude actualisée afin d'analyser l'état réel de l'emploi francophone en région. Revaliser et structurer pour l'avenir. Face à cette urgence, des solutions concrètes peuvent être déployées rapidement. Ajar Ajouji préconise d'abord le renforcement des partenariats existants, notamment en soutenant les centres de la petite enfance adossés aux infrastructures du CSAP pour augmenter rapidement leur capacité d'accueil. À plus long terme, la gestionnaire estime qu'il faut valoriser et structurer davantage l'offre des garderies en milieu familial qui représente une alternative flexible et de proximité pour absorber la pression qui pèse sur les centres réglementés. Et qu'une place en garderie francophone ne devrait jamais être une faveur accordée ni un coup de chance, mais un droit clair et accessible. Tant que l'offre préscolaire restera en décalage avec les besoins des familles, c'est l'avenir même de la communauté acadienne, sa langue, sa culture, sa vitalité, qui continuera d'en payer le prix. Le manque de place menace la vitalité de la communauté francophone. Arrivée des familles, barrières linguistiques et freins à l'emploi. Ajar Ajouji, gestionnaire d'immigration francophone Nouvelle-Écosse, IFNE, livre un diagnostic sans concession sur la réalité vécue par les nouveaux arrivants face à la pénurie de places en garderie. Le courrier. Quel est le premier impact concret du manque de places en garderie pour les familles immigrantes qui s'installent en Nouvelle-Écosse? Ajar Ajouji, dès leur arrivée, ces familles font face à de multiples démarches. Trouver un logement, comprendre le système de santé, inscrire les aînés à l'école. L'emploi est, bien sûr, une priorité absolue pour s'établir durablement, mais le manque de place en garderie devient immédiatement un frein à cette intégration professionnelle. On voit des couples obligés de faire un choix difficile. L'un des conjoints doit renoncer à une opportunité d'emploi ou mettre sa carrière entre parenthèses pour rester à la maison et garder les enfants. C'est un coup dur pour l'autonomie financière de la famille. Le courrier. De nombreuses familles doivent se résigner à choisir une garderie anglophone. Est-ce que cela nuit à l'apprentissage du français chez les enfants issus de l'immigration? Les orthophonistes se veulent rassurants. Les jeunes enfants ont une plasticité cérébrale formidable et le plurilinguisme précoce n'est pas un problème en soi. Si l'enfant bascule par la suite vers une école du CSAP, le retard peut très bien se rattraper. Le véritable défi est plutôt pour la cellule familiale, qui navigue déjà entre plusieurs langues à la maison. Cela demande un effort d'encadrement supplémentaire de la part des parents pour maintenir un équilibre entre les langues et accompagner l'enfant face au défi du plurilinguisme au sein même de la famille. Le courrier. Quelle est votre plus grande crainte si aucune solution durable n'est apportée par le gouvernement? Ma crainte est que la solution n'empire et que les parents choisissent la facilité par pure frustration. Lorsqu'un enfant a passé ses premières années et pris ses habitudes dans une garderie anglophone, certains parents préfèrent ne pas bousculer ses repères et choisissent de poursuivre dans le système scolaire anglophone pour le primaire et le secondaire. À long terme, c'est toute la vitalité de notre minorité francophone, nos effectifs scolaires et notre bassin de main-d'œuvre futur qui risque de s'affaiblir. Le courrier. Quelles solutions rapides et concrètes préconisez-vous sur le terrain? Il faut d'abord renforcer et soutenir les partenariats existants, notamment avec les centres de la petite enfance adossés au CSAP, pour augmenter rapidement leur capacité d'accueil en utilisant les infrastructures existantes. À plus long terme, il faut donner plus d'opportunités, de reconnaissance et d'appui financier aux garderies en milieu familial. C'est une excellente alternative de proximité pour soulager la pression énorme qui pèse actuellement sur les garderies francophones réglementées. C'était Service de garde en français, le parcours du combattant des familles acadiennes et immigrantes. Un texte de Rachid Abar, paru le 28 mai 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.